17h18, prenons quelques instants pour regarder ce qui se passe aujourd'hui du côté de la Ligue nationale de hockey. Il y a 7 matchs qui sont au programme. Les Sabres de Buffalo ont les devants 4-0 sur les Stars de Dallas. On est en troisième période, 7 minutes 13. Les Stars qui ont une victoire, 4 défaites, une défaite en prolongation depuis le début de la saison. On a misé beaucoup du côté des Stars de Dallas. Mais là, les Sabres qui surprennent beaucoup de formations dans la Ligue nationale de hockey. Olofsson a marqué son 5e, Skinner son 4e, Johansson son 3e et Sam Reinhart son 3e. En cours également, on est en première période, 15 minutes 32 à faire en première période. L'Avalanche du Colorado allait devant 1-0 face aux Capitals de Washington. C'est Johnson qui a marqué pour l'Avalanche, c'était son premier. Les Bruins de Boston l'ont emporté 4-2 face aux Ducks d'Anaheim. Les Bruins, mine de rien, petit début de saison, on a 5 victoires, une défaite, 10 points, total de 10 points présentement pour les Bruins de Boston. Eh bien, après-midi magique pour David Pastrnak, qui est allé d'une performance de 4 filets, a eu la première étoile du match. Yaroslav Halak, lui, qui a bloqué 30 lancers, 938 en pourcentage d'efficacité dans ce match. Vous savez que Tuukka Rask est blessé, donc ça fait en sorte que Yaroslav Halak a pris... on l'a vu quitter du moins. Bref, je n'ai pas nécessairement de nouvelles pour vous dire combien de temps il est blessé, quoi que ce soit, mais c'est Halak qui était de la formation face aux Ducks. Et Brad Marchand a eu la troisième étoile du match avec 2 passes dans ce match et plus 1. Les Sénateurs d'Ottawa se sont inclinés 2-0 face aux Wild du Minnesota. Une victoire, 4 défaites pour les Sénateurs d'Ottawa. Les Devils qui avaient les devants face aux Panthers de la Floride ont échappé une avance de 4-0, ont perdu 6-4 face aux Panthers de la Floride. On n'est pas trop content du côté des Devils New Jersey. Et les Islanders de New York qui sont revenus tirer de l'arrière pour l'emporter 3-2 en prolongation face à qui? Aux Blues de Saint-Louis qui ont perdu leur dernier match 6-3 face aux Canadiens de Montréal. Et je vous rappelle qu'un peu plus tard en soirée, les Oilers d'Edmonton vont faire face aux Blackhawks de Chicago. Les Oilers, comme les Patriots du côté de la NFL, toujours invaincus, 5 victoires, aucune défaite. Donc, vont affronter les Blackhawks de Chicago. Aucune victoire, 2 défaites et une défaite en prolongation. Ce soir, il y a du baseball. 19h38, synchronisez vos montres. Vous faites deux choses. Un, vous écoutez Bonsoir les sportifs avec Yannick Lévesque, évidemment. Et en même temps, vous aurez l'occasion d'avoir un match de baseball parce que les Cards vont affronter les Nationals de Washington qui mènent cette série finale dans la Nationale 2-0. Pour en parler, Alex Agostino est avec nous. Salut Alex!
Salut Jérémy.
Alex, avant qu'on se parle de cette série finale dans la Nationale, allons faire un tour dans l'Américaine. Hier, les Astros l'ont emporté 3-2 en 11e manche face aux Yankees de New York. Correa qui a frappé la longue balle. Et là, j'ai parlé du bat flip de José Bautista. Lui, il t'en a fait un sérieux pas pire. Ça, c'était un petit peu arrogant quand même.
C'est correct. C'est des séries, c'est de l'émotion est vive. Correa, qui est défensivement toujours très bon, a eu beaucoup de ratés cette année, des blessures. Et jusqu'à la partie d'hier, il ne frappait pas dans les séries. Lui, comme George Springer, et c'est qui a été le héros offensif et défensif hier du côté des Astros? C'est Correa qui a fait tout un jeu pour retirer coureur qui tentait de marquer en 6e manche, qui aurait donné les devants aux Yankees. Et ensuite, en 11e manche, le circuit contre Jay Happ. Correa, c'est un joueur excitant, explosif. Il est bon dans toutes les facettes du jeu. Puis tu sais, quand l'émotion rentre, peut-être que la partie au mois de mai, Jérémy, que... Tu sais, tu joues contre, je sais pas moi, Tampa, puis il y a 5000 personnes, ou tu joues contre une équipe à Kansas City ou Détroit, puis tu frappes un circuit, ah, tout le monde est content. Mais là, tout le monde, tous les yeux sont rivés sur eux, puis c'est Yankees-Astros, deux équipes qui aspirent à la Série mondiale, deux machines, et on a une série, là. C'est 1-1, et Correa fait en sorte que les Astros s'en vont vers New York avec l'égalité.
Verlander, qui après une sortie difficile, a trouvé le moyen de se reprendre, il est devenu ce qu'on croyait, ce qu'on espère voir de Justin Verlander?
Ben oui, c'est une erreur, ce circuit de 2 points là, de Judge, si je me trompe pas. Et à la suite, il s'est battu. Et c'est ça que tu veux de tes as. Ils peuvent pas toujours être parfaits, comme on parlera tantôt des Nationals, mais c'est 6-2, garder son équipe dans la partie, c'est pas écrasé quand il a donné ce point-là. Puis on sait que dans les séries, c'est pas aussi facile en général de marquer des points comme en saison régulière parce que les lanceurs sont vraiment, c'est les tops. Et aussi, faut pas oublier Verlander, ça commence à prendre de l'âge, mais ça fait rien. C'est des gars qui sont très compétitifs, c'est des gars qui ont, on dirait que plus que c'est serré, plus que ces gars-là trouvent le moyen de pas abandonner. Puis, du côté des Astros hier, là, en se rendant en 7e manche, on a mal mené un petit peu la relève des Astros qui font pas le travail, mais hier, en plus de Correa, c'est la relève des Astros qui a fait le travail, un petit coup sûr qu'ils ont donné en 4 manches et 1/3 pour permettre à Correa de frapper ce circuit en 11e manche. Alors, Écoute, moi, j'ai adoré voir ça. J'adore cette série-là. C'est deux titans qui s'affrontent. Puis, ça risque d'être intéressant. Ce que les Yankees veulent pas, Jérémy, là, c'est une partie numéro 7 où tu vas être obligé d'affronter Cole en septième partie, probablement, et à Houston. Parce que à Houston, c'est bruyant. Les Astros sont très forts. Mais à New York, dans le Bronx, dans les trois prochaines journées, ça va être pas mal quelque chose de spécial aussi.
Ah, Cole, il est vraiment dominant, c'est incroyable. Si on regardait Verlander, Cole, écoute, t'as pas le goût de l'affronter.
Il est à un autre niveau depuis le début de la saison, depuis les séries. Il devient agent libre à la fin de la saison. À chaque départ, à chaque retrait au bâton, c'est des scènes de pièces qui s'ajoutent parce que toutes les autres équipes, présentement, regardent ce que Cole fait, puis ils préparent leur saison morte, puis c'est le meilleur qui est sur le marché à la fin de la saison. Strasburg des Nationals pourra opter hors de son contrat puis être là aussi. Mais là, c'est de la domination totale. Évidemment, Cole qui affronte n'importe qui l'autre bord, marquer des points, c'est difficile. Et c'est ce que les Yankees devront faire lors de la prochaine partie à New York qui aura lieu demain. C'est Cole qui est l'homme, c'est le numéro un. C'est quand tu as un Verlander qui est là, Greinke qui n'a pas été mauvais, mais qui n'a pas été bon non plus, mais c'est des lanceurs que tu dois aller battre, puis ça, c'est pas facile. Puis du côté des Yankees, Jared Paxton, Boone n'a pas été très, très patient. Deux manches et un tiers, et ils savent qu'ils ont une relève qui peut faire le travail, qui peuvent lancer 6-7 manches. Journée de repos aujourd'hui de ce côté-là, ce qui me ramène tout le monde prêt avec Luis Severino contre Cole. Ça va être un autre bon duel. Puis il fait un petit peu plus froid à New York qu'il faisait à Houston à l'intérieur. Alors, on a une vraie série, parce que si ça avait été 2-0 New York, ça aurait été très difficile pour les Astros de revenir. Et là, on a un 3-5. On partit à New York, 2 à Houston.
Alex Agostino, je veux savoir une chose. Lorsqu'on regarde les jeunes au baseball amateur, puis que le lanceur partant, il est dominant, j'ai l'impression que ça donne confiance à tout le monde, puis tout le monde dit, hey, on peut gagner le match. Est-ce que c'est la même chose chez les pros? Quand on, exemple, un Scherzer qui domine, on parlait d'un Cole, est-ce que ça donne confiance à l'équipe?
Ah, ben c'est évident. T'écoutes les commentaires d'après-partie des joueurs de position après une performance de Cole, après une performance de Verlander ou Scherzer. C'est comme, c'est tellement facile de jouer derrière eux, puis tu veux pas te décevoir ton partant. Ça veut dire qu'offensivement, tu sais que c'est difficile l'autre bord parce qu'eux aussi, l'adversaire, ont des bons joueurs, mais ça te donne une petite motivation de plus que la partie soit pas nécessairement gaspillée de ce côté-là. Et tu sais que tu donneras pas 6-7 points en deuxième ou troisième manche. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Alors, les joueurs ont une confiance que quand ton as est sur le monticule pour telle partie, tes chances de gagner sont grandes et t'as pas besoin d'en frapper 3, 4, 5 coups opportuns. T'as besoin de 1 ou 2 opportuns. Et c'est ce que les Astros ont fait hier avec Verlander, qui lui a permis à son équipe d'être dans la partie jusqu'en septième manche. Et par la suite, bien, Correa est venu sceller l'issue du match en 11e manche.
Bon, ce soir, 19h38, les Cards qui vont affronter les Nationals qui mènent cette série finale 2-0. Est-ce que tu penses que les Cards peuvent revenir dans cette série-là? Tu vas me dire, oui, un match, ça peut faire la différence. Mais comment vois-tu les Nationals de Washington?
Ben, je voyais les Nationals gagner cette série, mais là, ça a été une domination totale de leurs lanceurs. Je ne sais pas ce que les Cardinals ont fait hier, mais ils ont dû étudier Scherzer, Strasburg, Corbin, tu regardes ça aller, Aníbal Sánchez qui est un peu l'oublié, qui a eu deux départs incroyables dans la série, une contre les Dodgers est presque parfait contre les Cards. Alors ce soir, ils ont Flaherty contre Corbin. Flaherty, c'est leur meilleur du côté des Cardinals. S'ils veulent en faire une série, Jérémy, ils doivent sortir fort puis agressif avec leur bâton, marquer tôt dans la partie, parce que eux, quand tu parlais tantôt d'être confiant quand t'as un bon lanceur sur le monticule, eux, au niveau de l'offensive, à part leur manche de 10 points contre les Braves d'Atlanta pour battre les Braves la semaine passée, ils n'ont pas fait grand-chose offensivement. Et là, tu dois partir, tu dois être agressif, tu dois mettre la balle en jeu, tu dois frapper avec autorité pour permettre à Flaherty de peut-être lancer avec une petite avance. Parce que sinon, je pense que cette série pourrait même se terminer en 4 à Washington. Mais là, c'est deux défaites, je ne vais pas dire crève-cœur, ils ont été dominés. Sánchez et Scherzer, tu regardais ça aller, c'était comme si tu avais des gars des majeurs qui affrontaient des joueurs de ligue de recrues au niveau offensif. Et c'est pas parce que les Cards, leurs partants ont mal lancé. Nicholas a bien lancé. Adam Wainwright, le vétéran, a bien lancé. Mais quand ton offensif ne marque aucun point, tu sais, je pense que ça va être extrêmement difficile du côté de Saint-Louis de battre ça. Puis les Nationals, Jérémy, me font penser aux Blues de Saint-Louis de l'année passée. C'est-à-dire, en début de saison, après 50 parties, il y avait seulement 19 victoires. Tout le monde voulait congédier Davey Martinez. On parlait d'échanger Anthony Rendon, le joueur d'étoile troisième but, parce qu'il devenait agent libre. Est-ce qu'on garde Scherzer parce que probablement on ne gagnera pas? Mike Rizzo, le DG, a décidé de garder ça statu quo. Il a donné il a confiance à son gérant. Il est allé faire une coupe d'échange comme Daniel Hudson, le releveur des Blue Jays, qui est venu faire le travail parce que sa relève n'est pas nécessairement la meilleure de la ligue. Et ses joueurs ont répondu à l'appel. Ils sont venus presque éliminés par les Brewers de Milwaukee dans la wild card. Ils étaient derrière 3-1, presque éliminés dans la première ronde contre les Dodgers, mais ils sont revenus en fin de partie. Et là, ils risquent de se rendre pour la première fois de leur histoire en série mondiale contre les Astros ou les Yankees.
Bon, mais parlons-en justement. Est-ce que les Nationals de Washington, dans leur état de grâce actuellement, peuvent penser être capables de compétitionner contre les Yankees ou les Astros?
Oui, la seule raison, pas une raison. C'est Scherzer, c'est Strasburg, c'est Patrick Corbin. C'est aussi simple que ça. Puis tu rajoutes Aníbal Sanchez, que si sa confiance continue à bien lancer de la sorte, tu as 4 lanceurs partants qui peuvent rivaliser. Ou ça fait mal s'ils affrontent, disons, les Yankees, c'est la relève des Yankees qui a un avantage sur eux. Puis on sait que les Astros ont gagné en 2017. Mais pour me dire, est-ce qu'ils sont capables de les battre? Ça, on verra. Mais ils sont capables de compétitionner, oui. Puis tu regardes présentement les yeux de Max Scherzer, qu'on sait que c'est deux couleurs différentes, là, mais quand il y a le feu dans les yeux, Strasburg qui pourrait opter de quitter son contrat puis devenir agent libre. Sanchez, qui est un vétéran qui passe un petit peu sous le radar, mais qui fait le travail. Corbin, qui est un agent libre, qui sont allés chercher l'année passée. C'est un offensif qui est dirigé par Anthony Rendon, le jeune Trey Turner. Puis le vieux vétéran, le premier choix de l'histoire des Nationals, Zimmerman, qui fait du bon travail cette année dans les séries. T'as comme toutes les astres s'alignent, un petit peu comme j'ai parlé tantôt, les Blues de Saint-Louis qui est en dernière position au mois de janvier, tout d'un coup, se ramassent en finale de la Coupe Stanley. Alors les Nationals, c'est de ce côté-là. Mais t'as quand même, du côté de l'Américaine, deux monstres avec les Yankees ou les Astros, une ou l'autre. Ce qu'ils peuvent espérer, les Nationals, c'est que les Astros ou les Yankees se battent pendant cette partie puis que leurs lanceurs soient obligés de lancer à plusieurs reprises, potentiellement en relève aussi.
Alex, dis-moi, qui favorise entre les Astros et les Yankees?
Je vais continuer avec les Yankees. J'avais dit en début d'année que c'est eux qui gagnaient la série mondiale, alors je ne changerai pas le fusil d'épaule. Ça va être une série que moi, je pense que les Yankees, s'ils peuvent aller en chercher 2 sur 3 à domicile, vont gagner cette série en 6. Parce que si ça sera en 7, j'ai peur que ça peut être difficile pour eux. C'est très égal. On l'a vu dans les deux premières parties. Mais les Yankees ont de 1 à 9. Il y a toujours un héros différent. T'sais, une journée, c'est Edwin Encarnación, les 0-4, 3 retraits au bâton. Mais c'est le jeune Gleyber Torres qui produit 5 points. Le lendemain, c'est Aaron Judge. Ça peut être Gary Sanchez. Ça peut être, comme j'ai dit, Encarnación. Moi, je pense que les Yankees, c'est leur année.
Dis-moi, Alex Agostino, écoute, t'as joué au hockey, t'as coaché du hockey. Maintenant, t'es dans le monde du baseball. Tu sais, c'est quoi la mentalité au hockey? Au hockey, c'est tu te fais mal, puis tu retournes quand même. On accroche ça, on met un plaster, puis on retourne.
Ouais.
Au baseball, c'est différent. On a besoin vraiment qu'on soit en pleine forme physique, qu'on soit à 100%. Ouais. Stanton, du côté des Yankees de New York, on a parlé d'une légère blessure à une cuisse. Et là, on a décidé de pas le faire jouer le dernier match. Je veux que tu m'expliques l'importance de s'assurer de ne pas aggraver la blessure. Je me dis, est-ce que si, quand tu es rendu en finale de ton association, ce n'est pas là assez important pour que tu dises, OK, je vais jouer, ça fait mal un peu, mais je vais jouer?
Moi, je pense que si le joueur pouvait jouer et puis pouvait donner le plein rendement, il jouerait. Je pense que les équipes médicales de chaque organisation ont un gros mot à dire si le joueur est prêt. Pas une question nécessairement d'aggraver sa blessure, mais c'est plutôt une décision de est-ce qu'il peut être le joueur qu'on a de besoin. Puis quand t'as un banc où t'as des joueurs de soutien comme les Yankees ont, que ce soit un Aaron Hicks qui est prêt à jouer, un Brett Gardner qui a eu la saison de sa vie cette année, tu regardes les frappeurs désignés qui peuvent amener là, ils ont Encarnación maintenant, ben ils se disent, regarde, on peut l'utiliser comme frappeur suppléant en fin de partie parce qu'il peut s'élancer, mais ses courses du premier au troisième but du jour map, il serait pas capable. Alors, tu voudrais pas non plus perdre une partie parce que ton joueur n'est pas capable de suivre le rythme. Parce que c'est pas comme un exemple, comme tu dis, on a joué beaucoup au hockey, c'est taper une affaire, prendre une shot de Cortisone, puis t'es prêt. Il y a des lanceurs présentement, par exemple, c'est contraire. Ils ont des maux de bras, ils sont fatigués, mais ils sont capables de compétitionner parce qu'ils ont pas couru les buts. Ou surtout que tu as une blessure au bas du corps au baseball, là, quand t'es pas capable de que ton talent sorte, ben à ce moment-là, c'est très difficile. Évidemment, on a déjà vu Curt Schilling lancer avec une cheville amochée avec du sang partout puis des points de feu, puis il a lancé quand même. Et puis de ce côté-là, mais du côté de Stanton, je pense que c'est un gars qui a été souvent blessé. On voit qu'il y a le corps très serré, très tête. Puis les Yankees ont assez de réserve pour lui donner un coup de main. Puis je suis persuadé que s'il était capable d'être de l'alignement, il le serait.
En terminant, Alex Agostino, est-ce que tu as envoyé ton CV aux Phillies de Philadelphie pour être le prochain gérant? J'ai l'impression que tout le monde envoie son CV pour coacher Phillies.
Disons, j'ai pas encore géré dans le baseball majeur, alors je garderai mon CV pour moi. J'ai signé une prolongation de contrat de 2 ans pour mon territoire et j'en suis très content et très fier, Jérémy. Je pense que de la façon que ça se passe présentement, tu regardes des gars comme les noms qui circulent et ceux qui seront en entrevue cette semaine, c'est Joe Girardi, c'est Dusty Baker, c'est Buck Showalter. Beaucoup, beaucoup d'expérience au niveau de gérance dans le baseball majeur. Alors, j'ai hâte de voir qui ça va être. Mais je vais suivre ça de loin puis je vais garder mon CV pour moi.
OK, mais tu sais, quand tu parles de Dusty Baker, ça me semble, c'est encore actuel. Tu sais, explique-moi, là, je veux juste, moi, j'ai la mentalité de dire, est-ce que le gars est adapté à ce qu'on fait aujourd'hui? Si tu me dis oui, je veux juste me l'explique.
Ben, je sais pas si Dusty Baker l'est, mais Dusty Baker, ça fait juste 2 ans qu'il ne gère plus dans le baseball majeur. Ça fait 2 ans qu'il est special assignment avec les Nationals. Il est encore dans le baseball. Parce que je pense qu'il est avec les Giants. Alors, ces gars-là sont toujours à l'affût. Et c'est des cycles, hein. Là, les dernières années, c'est des gars qui ont jamais géré. Des joueurs. Des Aaron Boone avec les Yankees. Des Cora qui ont eu du succès. Là, tu regardes, nous autres, c'est Gabe Kapler qui avait joué 12 ans dans le baseball majeur, mais qui avait jamais géré beaucoup d'analytique. Et là, tu vois des équipes comme les Mets, les Phillies, qui sont comme, garde, peut-être que l'expérience, compte pour quelque chose aussi dans le baseball majeur, puis il faut essayer de marier les deux. Je pense que des gars comme Girardi, des gars comme Showalter, qui sont très bien préparés, sont capables de s'adapter avec le temps. Baker, je ne sais pas, 70 ans, toute une carrière, sa fiche de victoire-défaite est très, très bonne en carrière. Tout ce qui lui manque, c'est la Série mondiale. Puis, tu sais, c'est une job convoitée parce qu'ils savent qu'à Philadelphie, M. Middleton, il n'est pas sur le plan de 5 ans. Il est sur le plan de l'an prochain compétitionné. C'est un gars intense et il va sûrement vouloir quelqu'un qui est prêt à amener les Phillies au prochain niveau, de ne pas rester à 81 victoires, 81 défaites. Alors, intéressant à suivre parce qu'il y a 8 équipes qui ont des emplois ouverts présentement, dont des équipes comme les Cubs de Chicago, les Angels, les Mets, nous autres. Ça va être intéressant à voir combien de vétérans seront engagés et combien de nouveaux jeunes seront engagés.
Eh bien, un dossier qu'on suivra, évidemment, nouveau gérant du côté des Phillies de Philadelphie. Alex Agostino-Gros, merci d'avoir été avec nous.
Merci, Jérémy. Salut.
On s'arrête quelques instants. Au retour, le Lightning de Tampa Bay, aujourd'hui en préparation du match de demain. Vous savez que le Canadien affrontera demain le Lightning de Tampa Bay. 2 victoires, 1 défaite, ont perdu leur match face aux Sénateurs d'Ottawa. On s'est entraîné. Le collègue Martin McGuire était là, était à l'entraînement. Je vous laisse entendre les propos, entre autres, du capitaine du Lightning de Tampa Bay, Steven Stamkos. Au retour.